Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 2 mars 2016. C'est l'émission numéro 91, la 91e. Et nous sommes, Gérald et moi, Christophe Rollin, en fort bonne compagnie. Deux comédiens qui sont actuellement à l'affiche au théâtre de la Croix-Rousse pour Tartuffe ou l'Imposteur, une pièce de Molière de 1669. Eh bien, deux comédiens, enfin, ce spectacle est d'ailleurs à l'affiche de ce mardi 1er mars hier jusqu'au samedi 12 mars. Et ces deux comédiens, nous recevons les rôles-titres Tartuffe, alias Emmanuel Vérité, ainsi que Cléante, Étienne Grebeau, qui vont donc pendant toute cette heure nous parler de leur rôle dans cette pièce et puis également du propos très particulier qu'a voulu Benoît Lambert, le metteur en scène. Nous commençons tout de suite en musique, puisque Gérald l'a préconisé, je ne sais d'ailleurs même plus ce que c'est, nous allons bien voir. Vous nous écoutez, vous avez d'ailleurs tout à fait raison de le faire, c'est sur à Lyon, sur le 102.2 de la bande FM, et vous nous écoutez également, si vous le faites, comme ça c'est très bien, radiocanu.org, c'est sur internet. Nous sommes présents ensemble jusqu'à 14h, jusqu'à 15h comme d'habitude. Il est d'ailleurs 14h05. Oups, un petit peu de retard, ce n'est pas grave, on va tout rattraper pendant l'heure.
La femme des uns sous le corps des autres, à des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres. D'abord on se dit vous, et puis on se dit tout. On s'envoie un verre, on s'envoie en l'air, et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut, on regarde en bas, et qu'est-ce qu'on y voit? La femme des uns sous le corps des autres, et on commence à s'inquiéter. On se dit que si c'était la nôtre, là qui se vautre, on lui ferait passer le goût de recommencer, et pour changer d'air, on l'enverrait faire un tour là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut. Et pour se consoler, alors on irait voir la femme des autres, et quand elle écarterait les bras, on se dirait elle est comme la nôtre, la femme des autres. On irait chasser dans les beaux quartiers, et dans l'ascenseur on ferait le joli cœur, et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut, venu d'Amérique, y aurait de la musique. Il faut des pick-up, faut pour les soulever, pour les envoyer là-haut, 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 tout là-haut, là-haut. Des disques longue durée, haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité.
Gérald, pourquoi tu as choisi cette...
Bonjour chers auditeurs, bonjour chers invités, bonjour Christophe. Bonjour.
Tu as toujours raison, j'oublie ça. Bonjour chers invités. Mais Gérald,
c'est pas grave.
Comment
je suis là pour rattraper la sauce.
Très bien.
Non mais là, pour une fois, j'ai improvisé. Je n'ai pas vu le spectacle, je n'ai pas eu la chance.
Oui, mais c'est
d'y assister hier soir.
Là, tu es un peu dans. J'entendais les paroles. La femme de l'autre, femme volée, haute fidélité. Enfin, du moins, c'est.
Ben, j'ai cru lire quelque part qu'il était question d'un trouble fait qui allait bouleverser tous les rapports familiaux et qui voulait s'accaparer à la fois les biens corporels et des biens
matériels.
Sonnant. Trébuchant, donc voilà, je me suis dit la femme des uns sous le corps des autres, c'est rigolo.
Oui.
Tartuffe est amoureux d'Elmire.
Et c'est une pièce plutôt cynique, politique et drôle, je sais pas.
Tartuffe et Cléante sont présents pour nous en parler. Tartuffe, c'est Emmanuel Vérité, Cléante et Étienne Grebeau. On respecte ça, hein, une sorte de premier temps de conversation dans l'émission qui est, eh bien, qui êtes-vous donc, Emmanuel? Qui êtes-vous, Étienne? Alors, l'un des deux est lyonnais, je crois. C'est vous, Étienne,
non,
hein,
c'est ça? Lyonnais, Dijonais.
Dijonais.
Quand, c'est pas très loin, mais c'est... pas encore.
Je veux dire, local, voilà, vous êtes local.
Ouais, quasiment.
On peut écouter Radio Canu à Dijon sur le radiocanu.org, parce que je pense que le 102.2, ça ne passe pas jusque là-bas. Et Emmanuel, non, c'est pas Lyon du tout. Hein. C'est,
non, pas du tout. Non, non, moi je suis un Parisien, né là-bas et un peu grandi là-bas, ouais. Terrible, épouvantable. On va pas en parler.
Surtout
mais
de...
qui est attaché à Dijon maintenant, mais comme comédien permanent du Centre Dramatique National.
J'ai découvert la lumière en arrivant à Dijon.
Ah, excellente chose. Benoît Lambert, metteur en scène de cette pièce, Tartuffe ou l'imposteur de Molière, est également un peu comme vous peut-être, Emmanuel, il n'est pas dijonnais, mais il est à Dijon en ce moment.
Oui, enfin lui, il habite Dijon maintenant, depuis bien longtemps maintenant.
Mais est-il originaire de Dijon?
Non, pas du tout.
Ah,
non, voilà. Cet homme est né au Maroc, si je ne me trompe pas. Et il a un peu grandi là-bas, puis après il a habité en région parisienne pour longtemps. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés quand on avait 16 et 17 ans.
Voilà, il y a quand même un compagnonnage.
On a un compagnonnage avec Lambert assez long. Ouais.
Une belle expérience. Mm. Et vous, Étienne, vous l'avez rencontré dans quelle
Moi, je l'ai rencontré dans le cadre du théâtre, tout simplement, parce que quand il s'est installé en Bourgogne, justement, il cherchait à rencontrer des comédiens, et puis on s'est rencontrés de cette manière-là. Notre première collaboration artistique, c'était avec Emmanuel, d'ailleurs, en 2003. Au moment des grandes grèves des intermittents du spectacle. Ouais. On avait fait un spectacle sur des gens qu'on emmenait à l'abattoir.
Ouais, c'est ça.
Enfin, là, on les emmenait se perdre dans la forêt à. C'était, ça s'appelait comment déjà l'endroit où
Corvette de bois
Barbieret-sur-Ouche. Ouais,
une battle royale appliquée aux comédiens.
Exactement. Une battle royale appliquée aux comédiens en 2003. On s'est rencontrés à cette occasion.
Ça fait plus de 10 ans. Vous dites rencontrer tous les deux. C'est très bien ce terme de rencontre. Je pourrais l'utiliser pour. Cette rencontre avec l'art dramatique, comment s'est-elle faite? Vous évoquez donc l'âge de 16-17 ans, je suppose que vous étiez donc déjà un peu dans le théâtre, Emmanuel, et vous, Étienne, c'est venu à 10-15 ans, 12 ans, au collège, hein, Gérald, collège, école élémentaire, ou à quel moment? Je vous en prie, Étienne, oui?
Non, moi c'est venu beaucoup plus tard, moi j'étais pas du tout baigné là-dedans, il se trouve que j'y suis arrivé un peu par accident, j'ai un grand frère qui faisait de la musique et qui est tombé dans le théâtre parce qu'un jour, voilà, il faisait la musique pour une pièce et puis il manquait un comédien, il a donc fait le comédien, je suis allé le voir et je me suis dit, ah mince, ils ont fait un truc assez rock'n'roll à l'époque et je me suis dit, ah mince, le théâtre, ça peut aussi être ça. Et du coup, voilà, je me suis lancé dedans et j'étais destiné à être comptable, moi. Je travaillais comme comptable chez Renault Véhicules Industriels, pour tout vous dire. Donc c'est arrivé très tard, à 23 ans, 24 ans. Comme quoi...
Ah mais c'est comme quoi, je pense que les spectateurs hier nombreux, et il n'y avait pas que des scolaires, il y avait également de tous âges, et bien je crois qu'ils ont été très contents toute cette pièce, et notamment, enfin moi c'est peut-être mon cas plus personnellement, mais Cléante m'a beaucoup touché, ce personnage dont on reparlera peut-être dans quelques instants. Et vous, Tartuffe, Emmanuel, vous êtes venu au théâtre dans quel...
Plutôt de manière un petit peu classique,
scolaire.
À l'école, oui, je faisais, puis après je me suis mis à faire des ateliers... Des cours de théâtre, comme on prend des cours de tennis ou des trucs comme ça, et j'aimais bien ça. On rencontrait des copains, des copines, enfin c'était un truc pour les jeunes. Ouais, j'étais jeune, hein, quand j'ai commencé à en faire, vraiment très 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 tôt. Et puis après, effectivement, on rencontre des profs qui vous font regarder le théâtre pas simplement comme un hobby où on vient se détendre et voir des copines, mais peut-être aussi comme un truc où on peut raconter des histoires, on peut, et là à chaque fois ça change, et il y a eu plusieurs professeurs importants. Et il y a eu des écoles, voilà. Et donc j'ai commencé assez tôt, ouais.
Ça fait deux conceptions, sont-elles différentes? Je retiens cette expression que vous avez donnée, Étienne, rock'n'roll.
Oui, enfin ça c'est ce qui m'a attiré au théâtre. Après j'ai suivi un chemin un peu comme Emmanuel, assez classique, c'est-à-dire que quand j'ai mis un pied dedans, ben voilà, je suis tombé comme Obélix dans la marmite. Mais après j'ai suivi des cours aussi au CDN de Bourgogne. Et puis ensuite à Paris, j'ai passé des concours, je suis rentré dans des écoles à Paris, au Théâtre National de Chaillot, des choses comme ça. Donc finalement le parcours après, c'est retrouver orienté de manière un peu plus classique, parce que c'est pas tout d'aimer le rock, mais Il faut quand même savoir jouer un peu de guitare, quoi.
Sauf si on est vraiment punk.
Ouais. Non, mais quand même, il y a un moment où on plafonne vite, quoi. C'est vrai. De ce point de vue-là, l'art dramatique et puis la musique, ça de commun, c'est que on peut effectivement jouer instinctif, etc. Mais il y a un moment où on plafonne. Si on sait pas lire une partition, à un moment, c'est bien d'aller un peu plus loin, quoi. Ça permet de creuser, en tout cas.
Oui. Et puis ça change beaucoup. Les motivations pour lesquelles on commence le théâtre changent, je pense, et évoluent. Puis les envies, on change, on apprend un peu tout le temps quand même. Hein. Ouais. On s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses. Ça, dans ce métier, ça c'est un truc qui est sûr.
Gérald, est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on peut venir tout de suite à Tartuffe avec ces termes de punk qui sont évoqués? Qu'est-ce qu'on a dit encore? La conception peut évoluer. J'ai parlé de cette pièce qui date tout de même de 1669. Alors c'est un peu compliqué.
La première version c'est 64.
Voilà, 1664, c'est ça. Il a dû l'écrire donc en 1663, même si on peut, si on rentre dans tous ces détails.
Il a été censuré 5 ans, à moins que ça soit une manière de faire de la publicité, si j'ai bien compris.
Effet de buzz. Un énorme effet
déjà,
de buzz.
Déjà à l'époque, l'effet de buzz.
Ah ben, énorme.
Pendant 5 ans, un truc.
Énorme.
Attention, ça monte.
Bah évidemment, énorme. C'est à Paris, à cette époque-là, c'est un peu le... À Paris, à cette époque, c'est presque le centre du monde. En Europe, en tout cas, c'est quand même l'endroit où il se passe plein de choses. Hein. Mmh. Et donc, effectivement, on censure une pièce, vous imaginez bien que le bruit a couru très très vite.
Le dossier de presse est très intéressant, on parlera du contexte historique et de la, on va dire, mésinterprétation ou surinterprétation, peut-être un peu fallacieuse, qu'on a appliquée à cette pièce au cours de l'histoire.
Oui, si vous voulez.
On en parlera.
Mais alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire une sorte de buzz. Voilà, on dit on en parlera, et bien ça va venir dans quelques instants, mais écoutons.
Sur les conseils d'Emmanuel Vérité, on va écouter la balade de Maquis par Lotte Olenia.
Alors, et qu'est-ce que c'est le tout début, bon, c'est très bien. Voilà. Et puis ensuite, nous entrerons donc dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette pièce Tartuffe ou l'imposteur. J'insiste hein, parce que Benoît Lambert l'a beaucoup dit. Le titre, enfin du moins le complément de titre est nécessaire pour la plupart des pièces. Hein. Je crois que Molière c'est pas la seule. Il me semble qu'il y en a d'autres.
Il y en a plein.
La fameuse Don Juan ou le Festin de Pierre. Fourberie de Scapin, je crois que c'est tout court. Il me semble.
Non, Fourberie de Scapin, je vois, il y a pas de.
Mais l'imaginaire, c'est tout court aussi.
Le Misanthrope ou la Trabilaire amoureux.
La Trabilaire amoureux, effectivement. Donc nous écoutons Lotte Olenia avant de parler plus précisément de cette pièce à l'affiche au Théâtre de la Croix-Rousse du mardi hier 1er mars jusqu'au samedi 12 mars. Ça c'est bien, c'est bon quand il y a une belle série de, ça fait 10, 11 représentations je suppose, quelque chose
10.
Comme ça 10, c'est très bien. Samedi, celui qui arrive à 19h30 et le suivant à 16h, sinon en soirée c'est à 20h et c'est très bien. Donc voilà, on en reparle une fois qu'on a écouté cette balade de Maquis Messa, c'est ça Gérald?
Je crois bien.
Bon, on va voir. Mackie Messer, je crois que dans les versions anglaises, puisque c'est devenu un standard de jazz, c'est Mac the Knife.
Oui,
je sais
c'est
pas
ça.
Si, je sais pas si en français on l'a traduit.
C'est ça. Chanté par cette voix vraiment très étrange, très tremblante, belle, le Tolenia.
Alors, voilà. Donc une première question, c'est ça Gérald, pour Emmanuel Vérité, avant de parler plus précisément, on va encore faire monter le buzz sur Tartuffe, dont nous parlons aujourd'hui dans l'émission spectaculaire 91e. Pourquoi écouter cette balade de Mac le Couteau, de Mackie Messer? C'est peut-être un peu l'histoire de... Une histoire de Tartuffe. Je pense à un autre titre de Bertolt Brecht, c'est l'irrésistible ascension d'Arturo Uy, mais ça, je connais pas plus que ça, ce titre. Oui. Emmanuel Vérité, je vous en prie, enfin, vous avez
La question, c'est quoi?
Pourquoi? Vous avez tout à... Et quelle était la question? C'est pourquoi écouter ce titre-là? C'est toi, Gérald, qui l'a suggéré, mais pourquoi alors toi?
J'avais amené, mais bon. Je l'ai passé parce qu'il me l'a conseillé.
Oui, mais quel rapport? Il y a un truc avec Tartuffe ou non, même pas?
Non, mais si, mais le rapport, on peut s'amuser à en faire. Oui, c'est que oui. Tartuffe, c'est un polar, la pièce. C'est l'histoire d'un type qui va arnaquer des gens. Et c'est un polar. C'est un mauvais garçon. Il n'est pas à son coup d'essai. C'est un type dont on sait très peu de choses, mais on apprend à la fin qu'en tout cas, il a.
D'autres noms.
Absolument, c'est pas son nom. Tartuffe, c'est pas son nom. Donc c'est vraiment un. Alors nous, plus que peut-être on aurait pu s'amuser, plutôt que de prendre Mackie, on aurait pu s'amuser à prendre une des références qu'on a utilisées avec Benoît, on aurait pu mettre la musique, c'était celle d'Arsène Lupin. On aurait pu prendre la musique de l'adaptation feuilletonesque télévisuelle.
Jacques Dutronc.
Mais c'est Arsène Lupin, c'est-à-dire que c'est un type qui se cache et qui invente des identités différentes pour arnaquer ses victimes. Et voilà, ça a été la référence pour nous, de se dire, ouais, il n'est pas à son coup d'essai, il est très malin et extrêmement habile. Mais il va perdre, contrairement à Arsène Lupin qui lui...
Gagne à tous les coups?
Quasiment, ouais. Lupin, il arrive à disparaître même. Mais Tartuffe, il se fait avoir. Et il a un peu trop d'orgueil. À un moment donné, il va un peu trop loin et c'est ça qu'il le perd. Il le perd d'ailleurs parce qu'il s'approche trop près du pouvoir et on parlera peut-être de la fin de la pièce, mais on dit, tout le monde raconte que c'est une pièce qui finit bien, etc. Mais elle finit pas si bien que ça.
Mais en tout cas, c'est discutable,
ouais. Oui, c'est très discutable, ouais.
Ben disons, elle finit bien, Étienne, c'est peut-être ce qu'on peut dire, elle finit bien pour l'ordre établi.
Enfin, voilà, exactement, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est discutable, c'est que ça finit bien, mais ça finit bien pour les gens qui ont le pouvoir et qui
le gardent.
En place et qui le gardent, voilà. Donc après, c'est un point de vue de dire que ça se termine bien. D'un point de vue du personnage de Cléante que je joue, je pourrais dire que ça se termine bien. Après, d'un point de vue politique, ben, chacun peut se faire son opinion là-dessus. Est-ce que le pouvoir doit rester toujours dans les mains des mêmes? Est-ce que ça doit tourner? Est-ce que ça doit toujours être les puissants qui écrasent les autres, je sais pas.
Enfin, en tout cas, la famille va aller voir le prince et s'agenouiller devant lui et s'excuser de tout ce qu'elle a fait et le remercier d'avoir vraiment ramené l'ordre, en tout cas. Donc, en tout cas, ils ont eu très 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 chaud. Très 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 chaud aux fesses quand même. Et ouais. À la fin, ils viennent s'étaler, ils viennent se mettre à genoux, carpette, et respecter l'allégeance et faire oui, pardon. Il y a un côté qui est oui, pardon. C'est ce que dit très bien d'ailleurs Cléante à la fin, qui est dit allons nous agenouiller devant le prince pour le remercier. C'est vraiment une manière de. Voilà. Moins de 100 ans après, c'est pas tout à fait ce qui va se passer quand les bourgeois vont aller décapiter le roi quand même. Mais là, à ce moment-là, on fait oui, pardon.
Et l'ordre accepte, puisqu'il me semble avoir lu quelque part que Benoît Lambert disait ne pas avoir du tout touché au texte. Il reconnaissait tout de même avoir. Mis un petit peu d'allemand, on pourrait l'évoquer, et puis aussi avoir terminé les derniers mots de la pièce. Dorine prononce en fait les premiers mots de la pièce, mais moi il me semblait bien qu'il y avait tout de même un tout petit ajout, c'est l'exempt, enfin du moins l'exempt, dans cette mise en scène, est-ce bien l'exemple qui dit c'est bien à la famille qui vient de chanter les grâces et les louanges, c'est ça? Enfin, j'ai le texte sous les yeux.
Oui, les dernières phrases du texte qui disent que le ciel soit loué, maintenant je respire, qui sont des répliques souvent assez difficiles pour les comédiens qui doivent les dire. Ah là là, maintenant je sont chantés comme une forme de louange. Et là, cette fois-ci, louange double à chaque fois. Là, le signe, il est double. C'est que c'est une forme, c'est une manière de les chanter comme des louanges à Dieu. Mais c'est des louanges là qui sont chantées au prince. Les louanges au prince.
Hein, et ce prince qui commente donc en disant c'est bien.
C'est bien.
De manière un peu comment qualifier,
condescendante.
Voilà, c'est condescendante, un peu de mépris. Donc oui, enfin voilà, c'est vraiment ce que vous dites, Cléante. Enfin, Étienne, c'est la victoire de l'ordre établi, puisque même le prince lui est content. Voilà, c'est bien comme ça. Tartuffe va finir en cabane, et puis c'est très bien.
Oui, et puis c'est aussi une manière de continuer à asseoir son pouvoir. Enfin, c'est vrai, quand on dit l'expression « c'est le fait du prince », là, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont vraiment tout-puissants, à la limite du divin, et puis qui peuvent tout se permettre, quoi. C'est-à-dire que, dans l'histoire de Tartuffe, quand Emmanuel Talor disait « c'est un peu un Arsène Lupin et tout », il est même très très malin, puisque finalement tout ce qu'il va obtenir, il va l'obtenir de manière légale. C'est-à-dire qu'il va arnaquer les gens, mais il va pas les arnaquer en leur volant des choses directement. C'est-à-dire qu'il va trouver le moyen de les manipuler, mais Orgon, le père de famille qui cède tout à Tartuffe, le fait de manière totalement légale. Il y a des papiers, il y a des contrats, il y a des choses comme ça. Enfin, je veux dire, il est totalement dans la légalité. Et logiquement, il n'y a aucune raison qu'on lui prenne ce qu'il a réussi à obtenir. Et puis là, le prince arrive et d'un claquement de doigts, il dit oh, « ben, le contrat, je le déchire, ça je le mets à la poubelle, je décide que c'est moi qui fais la loi maintenant. » Et il change la loi comme il veut, quoi. Donc oui.
Alors cette critique-là, à l'époque de Molière, est-ce que c'est quelque chose de pro-royal, on va dire, pro-monarchique, c'est une critique déguisée du pouvoir politique, du pouvoir religieux, comment ça se passe à l'époque? L'origine de ce texte, est-ce qu'il est aussi caustique et aussi subversif, qu'on veut bien le dire, par rapport à d'autres pièces ou pas?
Ah oui, il l'est.
Il le reste.
Oui, il l'est, ça, y a aucun doute là-dessus. Après, il faut remettre ça effectivement dans son contexte historique. Molière était subventionné par le roi.
Voilà, c'est ça.
Donc
c'est
en même temps, il pouvait pousser certaines limites, soulever certains travers, mais il fallait pas, comme le bouffon, il fallait pas qu'il aille trop loin, parce qu'il pouvait très bien aussi dégager aussi vite que l'exemple dégage tout à la fin de Tartuffe. Donc il fallait simplement qu'il éveille un peu des choses comme ça. Il a souvent été mal compris, on place souvent sur un problème religieux ce Tartuffe.
Oui.
Molière s'en défend d'ailleurs très bien dans le texte, et le problème n'est pas le problème de la religion. Comme on dit toujours, enfin nous... Tartuffe, là, il utilise le prétexte religieux parce que Orgon est très dévot, comme ça. Mais si on ramenait ça à un contexte... si on cherchait une autre métaphore plus moderne, on pourrait dire que si Orgon avait été fan de foot, il se serait changé en...
Ou laïc sectaire.
Ouais. Je sais pas, il aurait fait directeur du mercato, j'en sais rien. Enfin, non, mais voyez ce que je veux dire. Et Tartuffe, il utilise les armes des autres. Il se trouve qu'Orgon est dévot, donc il va là-dedans.
On peut penser que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Étienne, que lors de ces autres coups, ces coups précédents dont Molière ne dit pas grand-chose, dans le texte à la fin c'est l'exemple je crois qui rappelle un passé qui tient du passif, enfin on peut supposer qu'effectivement il a peut-être eu une autre casquette, une autre chose.
C'est
de,
sûr,
de la même manière dans une autre pièce de Molière, la pièce de Don Juan, je crois que c'est dans l'acte 4 que Don Juan fait une grande tirade pour dire bon allez voilà, maintenant je vais adopter le vice du siècle pour avoir un peu la paix. Et c'est l'hypocrisie. Je vais me mettre à être hypocrite. Je crois que Tartuffe, il me semble, précède en termes de d'écriture, mais peut-être en termes de représentation, ça suit Don Juan. Non, je 1667, le festin de Pierre. On va regarder
67.
Ça.
Bon, ça veut dire que c'était la même époque, parce que la première version de Tartuffe c'est 64, celle qui va être.
Et donc, peut-être la grande question à poser, c'est comment est-ce que toutes ces idées, comment tout ce propos, comment cette conception, j'ai tout à l'heure parlé de théorie, le mot peut être un peu péjoratif, comment est-ce que cela est venu à Benoît Lambert? Est-ce que c'est des conversations que vous avez eues tous deux, Étienne Vérité et lui-même? Est-ce que Cléante, vous y avez participé, Étienne Grebeau? Ou bien est-ce que c'est lui par ses lectures? Tu disais, Gérald, une grande tradition de mésinterprétation et de surinterprétation.
Le très bon dossier de presse qui figure sur le site du théâtre commence par une phrase, un paragraphe de Louis Jouvet qui parle de ça justement. d'une erreur d'interprétation, notamment autour du personnage même de Tartuffe. Il faudra trouver un garçon charmant, inquiétant et très intelligent. On doit sentir depuis le début de la pièce que c'est un individu dangereux, mais n'avoir pas de haine pour lui. Or, dans toutes les représentations de Tartuffe, dès le commencement, on le couvre de haine. Non, il est charmant, inquiétant. Il y a ça. Et puis la dimension anticléricale, un peu surinterprétée peut-être. Surtout à la fin du 19e, en période de séparation de l'Église et l'État, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'en longtemps on en a fait, enfin pas tout le temps, hein, parce que si on prenait dans le détail, il y aurait toujours quelqu'un qui pourrait vous dire mais non, mais nous on l'a pas joué comme ça.
Bah, la toute première, c'est ça, Ducroisy qui.
Voilà, Ducroisy. Ducroisy, quand il le joue, Ducroisy, c'est celui qui joue les hommes d'armes, les jeunes puissants, parfois les jeunes premiers aussi, peut-être, dans la troupe de Molière. Donc il n'est pas, c'est pas un vieux.
Gros gras, le teint vermeil.
Voilà, c'est pas un gros et gras, il n'a pas le. Voilà, ouais. Mais ça, c'est encore. Cette phrase est dite par Dorine. Et comme Dorine déteste Tartuffe, on peut tout à fait imaginer qu'elle transforme la réalité. On n'est pas obligé d'imaginer que Dorine dit absolument la vérité sur le personnage de Tartuffe. Hein. De la même manière, on en parlait tout à l'heure, que Cléante n'est pas forcément
le porte-parole
de Molière. Pas forcément. Pourquoi ? Non, il représente autre chose. Il y a peut-être des choses comme ça qu'on entend chez Molière, mais de la même manière que Philinte n'est pas forcément non plus le porte-parole de Molière. Hein, c'est pas
dans le Misanthrope, oui.
Dans le Misanthrope, oui.
Néanmoins, pour Cléante, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus avec Étienne, il y a un propos, enfin du moins c'est celui qui incarne un peu la raison, et donc c'est peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure, l'ordre établi, c'est peut-être vraiment cette figure principale. Mais reprenons un instant, on était lancé sur cette longue tradition de
Oui, il est parfois joué donc, par des personnages assez laids, repoussants, et voilà. Et nous, on a essayé de le prendre un petit peu différemment, effectivement, aussi, parce que il y a des... il est Orgon est séduit hein, par. Orgon n'est pas homosexuel, loin de là, je pense pas. Mais...
Dorine laisse entendre, enfin disons, Dorine dit et s'il l'aime tant que ça.
Oui, mais il a qu'à l'épouser. Mais il est complètement sous le charme de cet homme. Ce qu'a voulu essayer de montrer Benoît, c'est que peut-être il n'est pas très loin, Tartuffe, d'un fils possible pour Orgon. Et il est plus âgé que le fils dans la pièce qui s'en prend plein la figure. Hein,
Damis,
mais il n'est pas si éloigné que ça. Et il voit peut-être en Tartuffe tout à coup un espèce de fils spirituel possible. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi dit que pourquoi pas, il serait pas complètement laid, complètement déjà vieux et libidineux. Et donc ça a été un des points de départ. Et puis il y a celui aussi dont on parlait, c'est-à-dire c'est un personnage inquiétant et très très habile. Il est habile, il finit par se faire avoir, mais au départ il est quand même assez habile. Et il est très joueur, ça c'est un truc qu'on retrouve dans plein de caractéristiques, dans les grands rôles de Molière, c'est que c'est un joueur. Il joue, il aime énormément ce qu'il est en train de faire, il prend beaucoup de risques, mais ça l'amuse énormément. Scapin, c'est pareil, il joue, mais il prend des risques, et c'est ça...
Don Juan aussi.
Don Juan, ouais, bien sûr, il y a un truc ils aiment jouer aussi avec les codes de la société, avec les codes de l'époque, etc. Et sur la pièce, et sur son anticléricalisme, j'ai pas réussi à le dire... je vais même pas essayer de le faire. Son côté anti-religieux, voilà. La pièce, elle est plus ambiguë que ça, parce qu'en fait, il n'est jamais question à aucun moment dans cette pièce de religion. Chaque fois qu'on en parle, c'est Cléante qui en parle. Il ne parle pas de religion, il parle des religieux et de la manière dont les religieux vivent leur foi. Mais on ne parle pas de religion. On dit au nom de Dieu de temps en temps, on dit
sinon, frère. C'est le ciel surtout, la grande expression.
Le ciel, on parle de ça, mais on ne parle jamais de religion.
C'est pour ça que le sous-titre était important. Tartuffe ou l'imposteur, parce que ce qui est important là-dedans, c'est l'imposture.
C'est l'imposture.
Mais oui.
C'est des uns ou des autres, qui n'est pas forcément là où on croit qu'elle est en plus.
Oui. Il y a un truc qui est très beau dans un des textes que Bonin nous a apporté, c'est que Michel Serres parle de Tartuffe en disant que c'est un parasite, donc il vient parasiter en particulier l'héritage possible, il vient essayer de se servir au passage. Et il dit aussi que si aujourd'hui on devait en donner une figure contemporaine, ce serait sans doute un économiste. Ce serait un homme...
Ou un politique affairiste qui essaie de récupérer l'héritage d'une grande fortune française.
Absolument. en se servant, où elle est plus proche quand même, plus proche de la théorie, c'est-à-dire plus proche en fait de la pensée dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus qu'en termes économiques. On n'avait plus personne aujourd'hui, même dans les sentiments amoureux, qui ne vous parle pas d'économie en fait. C'est assez amusant. Et donc à l'époque, ben, la pensée dominante, c'est la religion, c'est la, on peut pas attaquer Dieu, quoi. De la même manière qu'on peut pas attaquer à l'époque Louis XIV, hein. Roi de droit divin, aujourd'hui, l'économie, on ne peut plus l'attaquer, parce que de toute façon, c'est ça qui gouverne le monde. Oui. Plus personne ne pense que comme ça. Même la gauche, aujourd'hui, et le Parti Socialiste, arrivent à penser comme des gens de droite. C'est extraordinaire.
Qui l'eût cru ?
Qui l'eût cru ? Ben non, mais ils sont là, les tartuffes. Ils sont là.
Oui, Manuel, c'est vrai qu'on est entouré de tartuffes, quoi.
Mais Manuel Valls n'est pas autre chose qu'un tartuffe. Enfin, c'est un homme qui va vous...
On a eu les guignols de l'info pendant 30 ans. Voilà. Ça aurait pu s'appeler les tartuffes de l'info, finalement.
Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, d'ailleurs, les guignols de l'info, c'est redevenu Tartuffe. Oui. Comme Bolloré.
Ah, racheter la télé. Oui, c'est là. Le pote de...
Oui, bon, bah, maintenant, c'est terminé. voilà, c'est fini. Mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça. C'est juste, c'est juste amusant de voir que ça bouge, que ça change. Et, voilà, mais ils sont là.
Les figures sont là et c'est juste les, oui,
et on se sert, qui changent. Et on se sert de ça pour dire aujourd'hui, il faut faire, vous comprenez, il faut demander aux gens de se serrer la ceinture. Vraiment, il faut prendre des décisions économiques courageuses, etc. C'est, ils sont tous là. Hein. Il n'y en a pas un seul qui respecte cette. qui respecte, parmi les gens qui prennent ces décisions, il n'y en a pas un seul qui y croit, hein, que lui, il faudrait qu'il se serre la ceinture. Hein. Surtout pas au Parti Socialiste. Donc. Non, mais c'est dans la gueule parce qu'il y en a marre, quoi, quand même. On n'est pas. Oui. On a été dupes, mais voilà, moi je préfère. Moi j'ai été à droite pendant très longtemps, je sais ce que c'est que la bourgeoisie, j'en viens. Il n'y a pas de problème, mais elle est à peu près honnête avec elle-même, elle défend ses intérêts.
C'est vrai en un sens, elle joue franco dès le début.
Ben oui, voilà, au moins quoi, c'est clair.
C'est vrai, je suis assez d'accord avec cette remarque.
On ne fait pas semblant, quoi. Les autres là maintenant, ils
fait plus rire personne.
Ah oui, non, ils nous baratinent bien, oui.
Un tartuffe d'ailleurs, tartuffeau, c'est un dessert, je crois, non? Le tartuffeau. Oui, étymologiquement, tartuffe, c'est devenu un nom commun. Bon,
d'abord, ça vient, substantivé. Ça vient de la truffe.
Oui.
Qui est un parasite. Et tartuffe.
Quel parasite ?
Tartuffeau, au départ, c'est la truffe en italien.
Voilà.
Ça vient de là. Mm-hmm. Et donc, ça s'est transformé en tartuffe, ouais, bien sûr.
Pour reprendre ces termes économiques et pour peut-être conserver ce propos, mais changer un peu l'approche, tartuffe est. Présenté comme étant un peu, enfin il est présenté dans le texte, mais dans cette mise en scène surtout, dans celle de Benoît Lambert, comme étant, enfin il est présenté, ce que Benoît Lambert souhaitait voir en lui, c'est un gueux, un peu comme Dorine, et est-ce que vous pourriez peut-être redévelopper ces choses-là en insistant éventuellement Cléante, Étienne Grebeau, sur cette idée à la fin de victoire de l'ordre établi, donc Dorine et Tartuffe seraient un couple. Et un couple qui peut-être cherche à bousculer un peu cet ordre, mais bon...
Alors un couple, ça va peut-être un peu loin quand on dit un couple. En tout cas, ils se reconnaissent, oui. C'est-à-dire que je pense que... Enfin, c'est quand on a monté la pièce, on s'en est aperçu de plus en plus. Benoît Lambert est arrivé avec le fil dont on parle depuis tout à l'heure, ce fil directeur. Et puis chacun dans les personnages s'est mis à creuser, à tirer le fil, etc. Et d'ailleurs, il y a ce magnifique geste que Martine Schambacher, qui joue Dorine, fait à la fin. C'est-à-dire quand Tartuffe tombe et qu'il est emmené en prison, elle va lui offrir... un verre de vodka, puisqu'ils sont en train de boire de la vodka.
Alors qu'Orgon s'apprêtait à se jeter sur lui et encore
deux secondes avant.
Lui taper dessus, que Cléante d'ailleurs venait le calmer.
Et que tout le monde, depuis le début, dit à Orgon, vous êtes en train de vous faire avoir. Bon, ben, au moment où l'ordre établi revient, Dorine ne peut pas s'empêcher d'avoir ce geste, parce que je pense qu'elle se reconnaît aussi à travers ce gars, parce qu'ils viennent de la même condition. Ça parle de ça aussi. Ça parle de ces gens qui viennent de la même condition, qui se reconnaissent entre eux. C'est pour ça qu'il y a tous ces échanges magnifiques entre Dorine et Tartuffe aussi, où Tartuffe commence déjà à se dévoiler vis-à-vis d'elle. Je pense que c'est elle qui le fait craquer en premier, enfin qui le fait craquer, en tout cas qui soulève un petit peu le masque, parce qu'elle l'a reconnu tout de suite. Ils viennent pas du même monde, quoi. C'est clair.
Et donc Martine, c'est une bonne partenaire. J'allais mélanger encore Dorine. Les prénoms. Emmanuel, est-ce que Dorine Martine est une bonne partenaire justement pour ces échanges? Parce que je voulais retrouver là à l'instant et je n'ai pas la main dessus. Peut-être Gérald vas-tu réussir.
Oui, bien sûr.
Que Benoît Lambert souhaitait monter cette pièce avec des comédiens qu'il connaît Oui. Et qu'il aime. J'ai été assez sensible à ce terme-là. Et c'est. Oui. Enfin, je n'en suis pas sûr.
Dans le théâtre, non
je tiens d'un metteur en scène.
Dans le cinéma.
Je tiens d'un.
Alors, dans le cinéma, dépend. Probablement moins, parce qu'il y a des histoires de tête d'affiche, des choses comme ça. Voilà, il y a des paramètres qui
ont. Mais plus dans le théâtre.
Dans le théâtre, encore, même des fois dans le théâtre, ça peut arriver.
Ça peut être imposé. Je tiens d'un très grand metteur en scène lyonnais dans une pièce dernièrement, une sorte de deuxième ou troisième tête d'affiche. Il se l'est un peu fait imposer, ou disons, c'était pas forcément son choix, et il en est assez déçu, d'ailleurs. Donc, bref, pour cela, pour cette pièce, pour ce Tartuffe, ça a bien marché. Benoît Lambert a effectivement monté une belle équipe, un peu à la Hannibal, c'est ça, dans les missions impossibles. Il a rendu tout à fait cette mission possible, et c'est une. Ça marche bien. Moi, c'est une question que je pose parce que moi, je peux y répondre. Oui, ça marche. Hein. Même Damis avec ce crâne lisse, c'est bien la petite frappe qui veut sans arrêt en découdre avec Tartuffe. Marianne Lambert est absolument charmante. Dorine est très. Non, c'est.
Benoît Lambert a quand même ce talent. Outre le talent de bien savoir monter les pièces et de bien savoir de quoi il parle, il a aussi ce talent de réunir les gens. Là, il y avait un truc qui était important. Et c'est flatteur quand vous dites il travaille avec des gens qu'il aime. Oui, c'est pour tous les gens qui sont dedans, c'est flatteur. Mais il y avait quelque chose auquel il tenait beaucoup, c'est que cette histoire de Tartuffe, ça se passe dans une famille. Il fallait absolument qu'on puisse croire à la famille. Donc il a aussi fait ce choix-là, c'est-à-dire de travailler avec des acteurs qu'il connaît et des actrices qu'il connaît depuis longtemps, et dont il sait qu'il pouvait les réunir pour qu'on puisse croire à cette famille. Parce que si on balance un peu tout le monde et n'importe quoi, c'est très compliqué de faire exister une vraie famille au théâtre. Et je pense que de ce point de vue-là, il a plutôt bien réussi son coup.
Oui, c'est vrai. Mais plein de pièces de Molière sont des histoires de famille. Hein. Il y en a plein, hein. À part peut-être Don Juan, le Misanthrope, où là, vraiment, clairement, il n'y a pas question de famille, même si Don Juan rencontre son père à un moment donné. Il y a un petit passage comme ça. Sinon, il est question à chaque fois de comment une famille est au bord de l'explosion. Et comment, là, cette famille va être amenée dans le droit chemin, là, en l'occurrence, grâce à l'intervention du roi et du prince. Mais c'est vrai que Orgon, pendant toute la pièce, on n'arrête pas de dire Orgon, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Tout le monde lui dit. Donc ce qui était intéressant aussi pour nous, c'était de rappeler que le salaud dans l'affaire, l'hypocrite et l'imposteur, évidemment, c'est Tartuffe. Mais Orgon, il n'est pas plus raisonnable, hein, et il n'est pas plus enviable, et pas plus. C'est aussi un salopard. Hein. Il est en train de déshériter son fils pour des mauvaises raisons. Il va marier sa fille qui est magnifique, qui est superbe, un salaud. Lui, il voit pas que c'est un salaud. Mais enfin bon, voilà. Mais donc, ce qu'il fait, c'est extrêmement violent, c'est très brutal, et c'est pas du tout un type respectable.
Sa relation avec Dorine, c'est très intéressant. Ce qu'en dit Benoît Lambert, on le perçoit, mais c'est peut-être. Ça manque peut-être de netteté par rapport à la note d'intention que Benoît Lambert a rédigée. Pour ce qui est de Dorine, il me semble que Benoît Lambert voulait clairement montrer qu'il y a entre Orgon et Dorine, Emmanuel.
Ben,
a...
sans doute des relations charnelles.
Des amours ancillaires.
Bien sûr, oui.
Ah non, oui, c'est bien sûr, c'est hyper moderne. C'est une famille recomposée. C'est vrai. Ah oui. Enfin, à l'époque où Molière écrit ça, on est déjà Elmire, dans la famille
recomposée. Elmire, c'est la deuxième femme.
Ouais. Elmire, c'est la deuxième femme. Les enfants ne sont pas les enfants de Orgon et d'Elmire, mais ceux qu'il a eu avec son premier mariage. Donc, la femme est en fait la belle-mère. Le frère est en fait le tonton.
Ouais, une famille très moderne, quoi.
Ouais, non, mais
contemporaine.
On est en plein dedans, c'est super.
En ce moment, on est en plein dedans, ouais, bien sûr. Ouais.
Je peux peut-être citer la note d'intention de Benoît Lambert. Bien sûr, il ne s'agit pas de tenter une reconstitution historique ou de représenter les rapports de classe et de génération tels qu'ils s'organisaient dans une famille honnête, entre guillemets, au milieu du XVIIe siècle. Il s'agit plutôt de tenter une image rêvée ou cauchemardée de cette famille, de la haute bourgeoisie, qui grimace sous l'assaut de Tartuffe, qui exude son tas de sales petits secrets. On regardera donc du côté du cinéma de Buñuel ou de La Splendeur des Ambersons. On regardera du côté des comédies de boulevard ou de Dallas et des sagas familiales hollywoodiennes. On se rappellera qu'il s'agit moins de montrer une époque qu'un dispositif de crise et qu'on peut le faire figurer ailleurs dans l'espace et le temps. Le point central, en tout cas, sera de produire un portrait de famille, Jouvet encore qui cite, puisqu'il était très marqué par les cours de Jouvet, dont il parle au début de la note d'intention. Ce qui est difficile dans Tartuffe, c'est de donner l'impression de la parenté entre les personnages de cette famille. Oui, inventer une famille possible, c'est une joyeuse gageure pour quiconque s'attaque à Tartuffe. Pour ma part, j'y vois surtout l'occasion de réunir une troupe idéale, fût-elle éphémère, en mélangeant des acteurs de différentes générations. Pour cela, je veux réunir des comédiens que je connais bien, pour avoir déjà travaillé avec eux, avec chacun d'entre eux, mais qui, pour la plupart, se rencontreront pour la première fois.
Et moi, je termine le paragraphe avec « Tous sont des acteurs que j'estime et que j'aime ». C'est ce qu'écrit Benoît Lambert. Il termine « Ma volonté de monter Tartuffe est profondément liée au désir de les voir jouer ensemble, de les voir incarner cette famille de théâtre qui est au cœur de la pièce de Molière. » Une famille qui est spéciale. Bref, je cherchais un terme pour indiquer, on va écouter des lettres d'amour. Lettres d'amour de Love Letter, c'est ça, de Métronomie. Pour introduire peut-être ensuite un dernier temps de conversation sur votre. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse évoquer vos expériences de comédien sur scène, certes, mais aussi d'incarnation de ce personnage. Vous, donc, Étienne Grebeau, comment avez-vous pu réussir à jouer ce Cléante qui, on le comprend, on est en train de le comprendre, quoi. Cléante, il s'en tire pas super bien non plus. Enfin, c'est peut-être la personne raisonnable, mais à quel degré est-il raisonnable? N'est-il pas aussi. Pas une sorte d'imposteur, mais un puissant qui s'en fiche un peu des autres. Et puis vous, Emmanuel Vérité, ce Tartuffe, comment est-ce que vous avez pu parvenir à effectivement le rendre charmant et
aimable. Inquiétant et charmant.
Inquiétant et charmant, disait Louis Jouvet. Donc peut-être comme ça, on pourra évoquer encore on pourra évoquer Benoît Lambert, le metteur en scène de cette pièce. De quelle pièce parlons-nous? Il s'agit de Tartuffe, qui est monté, qui est donné au théâtre de la Croix-Rousse. Je n'ai pas rappelé Tartuffe ou l'imposteur. Donné donc de ce mardi 1er mars, hier c'était la première, jusqu'au samedi 12 mars. Ça fait donc 10 représentations. Il y a des relâches le dimanche, et sinon c'est tous les jours. C'est à 20h, 19h30 je crois le samedi qui vient, et 16h le samedi prochain. Il doit y avoir un bord de scène je crois également. C'est ce soir. Bon, c'est
très bien. Mercredi, les bords de scène à la Croix-Rousse, il me semble.
C'est ça, exactement, Gérald, tu as tout noté. Donc, c'est-à-dire rencontre avec l'équipe au terme de la représentation. Love Letter, a priori, ça devrait marcher, j'espère bien. Love Letters, c'est une vidéo officielle que je trouve sur le site de YouTube. Pour Métronomie, c'est un titre pareil. Là, on pourrait évoquer aussi de la musique. Comment est-ce que vous...
Et puis, on n'a pas parlé du décor, de la scénographie, du choix d'une pièce non costumée. Ils boivent de la vodka et en plus, ils sont habillés dans les années 50, hein.
Il y a encore plein de choses à dire.
Maintenant.
14h45. Et a priori, Gérald, il n'y aura pas non plus aujourd'hui de blues des canuts. Donc on verra. Peut-être qu'on va déborder. Mais ça se fait pas normalement.
Yeah.
cette famille là dans le château là.
Alors
Nicolas Sarkozy.
Encore. Ah tiens, on l'aura nommé, donc c'est, je crois bien Gérald que ce sera passé à l'antenne, tant pis. Bon, bah, erreur de manipulation, double erreur. Bon, vous aurez reconnu, très intéressante publicité pour un jeu vidéo, je crois, en début de.
C'était pas le bon titre pour Métronomie, mais c'était le bon groupe.
En plus, c'était le bon groupe Métronomie, mais c'était néanmoins pas les Love Letters. Bon, on retrouvera ça, puis éventuellement on le mettra sur le blog, parce que cette musique a une importance, enfin une importance, et elle vient marquer le passage d'un acte à un autre, et vous, quand vous entrez sur scène, Tartuffe, Emmanuel Vérité, vous entrez en. Ouais, y a un truc quoi, vous dansez un peu quoi, vous essayez quelques pas de danse.
Bah, il groove un peu, oui. Ouais. Ah bah il y a deux trois moments où il est pas en train de jouer, oui, quand il y a personne qui.
Il fait un bras d'honneur aussi à Damis pour.
Ah bah oui. Oui, il joue, hein, c'est ce que je vous disais, c'est un joueur, il est là pour jouer au maximum. Il a pas eu à manger tous les jours. Hein. Il est là avec d'ailleurs avec son complice Laurent et qui bouffe des pommes en permanence. Ils sont là pour se servir sur la bête et je leur en veux pas énormément.
Qui bouffe des pommes, mais de manière un peu effrayante quoi, avec un couteau qui est, enfin je sais pas.
Oh, c'est... Ça, il a une tête de gitan atroce.
Ouais. Un couteau à cran d'arrêt. Enfin c'est des méchants. Quoi.
Non mais c'est des méchants. Ouais. Non mais ils sont pas. C'est pas des gentils. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je voulais juste dire qu'Orgon, il était pas plus gentil. On voulait citer les noms des peut-être de tous les comédiens. On le fait maintenant.
Oui. Puis après on enchaînera sur justement.
Enchaîne. Ouais.
En tant que comédien, comment ça marchait sur scène sur.
Alors c'est Marc Bergman qui joue Orgon, Stéphane Castan qui joue sa maman, Madame Pernès, donc un homme dans la tradition, on est dans la pure tradition moliéresque, qui joue les rôles des vieilles femmes, Anne Cuisenier qui joue Elmire, la femme d'Orgon, Johan Gazurowski qui joue Valère, l'amant de Marianne, Aurélie Reinhorn qui joue Marianne, donc la fille d'Orgon, le fils d'Orgon c'est Paul Schier qui joue Damis, donc aussi le frère de Marianne, Florent Gauthier qui joue le valet de Tartuffe, Étienne Grebeau qui joue Cléante, le beau-frère d'Orgon, donc le frère d'Elmire.
Et qui est présent sur scène, qui est présent dans le plateau, sur le plateau, dans l'émission.
Paul, je l'ai dit, et Camille Roy qui joue Lexan et Flipote, le rôle de la petite bonne Flipote, qui est un rôle muet mais qui est très présent. Très présent tout le long de la pièce. Et Martine Schembacher qui fait Dorine, la suivante de Marianne. Voilà.
Alphabétiquement, on termine, je crois, avec vous, Emmanuel Vérité, qui incarnait donc Tartuffe. Tartuffe et Cléante, vous qui êtes présent ici, êtes-vous un peu, est-ce qu'on peut vous opposer? Ou alors, après, zut, si je lance cette question, ça va encore peut-être revenir à du propos, mais mettons, ben, pourquoi pas, on peut évoquer ça, mais surtout, enfin, en termes de sur scène, voilà, comment est-ce que ça marche? Parce qu'il me semble que chacun s'énerve une fois ou une autre, je crois. Orgon pousse un cri, Madame Pernel, la pièce s'ouvre sur un cri, et vous aussi, je crois, Cléante, me semble-t-il, Étienne, c'est à la fin de la pièce, quoi, vous commencez à en avoir assez aussi de certaines choses, ben, et vous gueulez, quoi.
Ah ben, on est en pleine crise, hein, de toute façon, voilà, c'est un truc de crise, quoi. On est en plein milieu d'une crise. Donc, oui, ça gueule un peu, etc. Non, mais il y a un truc qui est intéressant de ce que vous avez dit là au tout début, c'est est-ce que ça, Cléante, comment ça s'oppose avec Tartuffe. On a parlé pas mal de ça avec Benoît Lambert, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est, on n'est pas en costume 18e, on a essayé de ramener ça au contexte d'aujourd'hui. Et Emmanuel tout à l'heure parlait d'un polar, mais on a parlé aussi un peu de ces familles mafieuses. On aurait très bien pu imaginer que ça se passe effectivement au sein d'une famille de la mafia. Enfin voilà. Donc non, mais c'est pour essayer de revenir à ce que vous disiez. Comment ça s'oppose? Il y a un côté Tartuffe, c'est un parasite qui vient pour essayer de piquer les trucs. Cléante, il a rien à foutre là quand même au départ. Je veux dire, c'est juste le frère de la femme du mec.
C'est ce que lui envoie Madame Pernel à la figure aussi.
Donc il y a un côté, on pourrait dire, il y a plein de fils à tirer là-dessus. Est-ce que c'est un pique-assiette? Est-ce que si on reste dans le contexte de la mafia, peut-être que c'est un peu le cancilliere d'Orgon, mais Tartuffe est en train de prendre sa place. Enfin, c'est que des jeux de pouvoir. C'est-à-dire que ouais, ils jouent tous un peu le même jeu. Comment être là, garder sa place et s'y accrocher? Mais c'est vrai qu'au départ, il a pas grand-chose à foutre là, Cléante, si on y réfléchit bien.
Et alors, comment jouer ça? Il y a une sorte de réticence? Ou non, au contraire, vous allez à fond, il n'y a pas de problème?
Comment ça se joue? On cherche plein de trucs, en fait. On a essayé un peu le côté mafioso, après on a essayé le côté pique-assiette, après on a essayé des choses comme ça, et puis petit à petit, on resserre les boulons pour essayer, d'un point de vue plus général, de coller à la pièce. Mais la rencontre Cléante-Tartuffe, c'est vraiment une scène de genre. Là, on est vraiment dans le...
Ouais. Ouais. Autour d'une table, dans une lumière assez sombre, et on a... On est les deux qui défendent leurs intérêts.
Enfin, on aurait pu faire ça dans le parrain, quoi. Ouais, c'est tout juste s'il n'y a pas un flingue qui sort ou des bifetons qui sont distribués pour dire maintenant je te donne ça, tu te casses. Enfin, il y a un côté comme ça.
Ou
quoi.
Bien une fameuse tête de cheval pour faire une offre qu'on ne peut pas refuser.
Oui, mais c'est ça. Ouais. On avait fait une version dans les répétitions où je lui faisais un chèque. Ouais. Et puis déchirer le chèque, alors je lui en faisais un plus gros. Bon, après on l'a gommé tout ça, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Enfin,
c'est une proposition. Après, sur le travail, vous savez, sur ces pièces-là, il y a un truc qui est très clair, c'est que tout part de l'alexandrin, quand même.
Et voilà, je vous remercie de l'évoquer.
La forme de la pièce, on pourra faire ce qu'on veut, nous on peut interpréter le rôle à peu près comme on veut, de toute façon, c'est extrêmement précis. Benoît a décidé de travailler en disant qu'il fallait respecter la métrique et l'alexandrin au maximum.
Et ça marche, on entend les rimes, on les reconnaît.
On se permet de temps en temps, même assez souvent, de faire des enjambements, ce qui en principe n'est pas autorisé. L'enjambement, c'est quand on passe d'un vers à l'autre, alors qu'en principe, on devrait... On doit faire la césure, et on doit prendre des respirations, etc. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans les questions techniques, mais en tout cas, ça part de là, parce que si la pièce fonctionne aussi bien aussi, c'est parce que, même si au départ, la plupart des gens, et même nous qui connaissons la pièce par cœur, on sait bien que de toute façon c'est très difficile d'entrer dans une pièce écrite en alexandrin, parce que c'est une forme mais qui est en même temps prodigieuse, hein, parce que c'est d'une efficacité à la fois comique et stylistique absolument incroyable, et que je crois que si aujourd'hui il y a un intérêt aussi à jouer ça, c'est parce que vous sortez de là, vous êtes un peu plus intelligent. Ça rend intelligent. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire d'oser écrire comme ça à l'époque et sous cette forme-là. On n'a pas fait mieux. C'est formidable. Pour arriver à... Benoît rigole et dit, il y a des punchlines, comme on dit dans les séries américaines, des répliques qui vont faire mouche, mais vous en avez dans le rôle de Dorine, vous en avez dans quasiment tous les grands rôles. Enfin, surtout, c'est réservé, c'est vrai, à Dorine et à Tartuffe. Vous avez des punchlines, mais extraordinaires.
Même le rôle muet fait du punchline.
Il y a les phrases qu'on connaît. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Ben ça, effectivement, là, il y a une force dans cet alexandrin.
Il y a quelques tubes, on pourrait dire, dans Tartuffe, entre dévot, cacher ce sein que je ne saurais voir.
Ah oui, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce bien Molière qui a écrit ces grandes pièces, ces pièces en vers?
Il n'y a aucun doute là-dessus. S'il y a des gens qui essayent d'affirmer que c'est pas Molière qui a écrit ça et que c'est Corneille, non seulement c'est stupide d'écrire ça, mais c'est mal connaître l'œuvre de Molière, et il y en a plein qui l'ont affirmé sur les grandes ondes. Moi, j'ai entendu des gens affirmer que c'était Molière, que c'était Corneille qui avait écrit, et qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit Corneille. Ces gens-là connaissent pas Molière et Corneille. C'est évident. Ils se sont rencontrés, hein, c'est sûr, un petit peu, hein, mais je vois pas pourquoi Corneille, qui était quand même un écrivain infiniment plus connu que Molière, à la fin de sa vie, aurait décidé de donner ses plus belles pièces à Molière. Je vois pas pourquoi il l'aurait fait, d'abord. Enfin, je comprends pas tellement. Je vois pas tellement le principe. Et c'est la théorie du complot. Non, ça n'a aucun intérêt. Non, mais pour une simple et bonne raison aussi. Hein, c'est sur un autre truc que les gens oublient historiquement, c'est que d'abord à l'époque les droits d'auteur ça n'existait pas. Ils passaient leur temps à se piquer des trucs. Il faut savoir que Molière, il a écrit, vous retrouvez plein de mécaniques dans les pièces de Molière, d'une pièce à l'autre, vous retrouvez des vers entiers. Hein.
Edmond Rostand dans la pièce Cyrano de Bergerac montre bien Ragnaud qui dit à Cyrano, je suis moucheur de bougies chez Molière, il t'a volé une scène tout entière, c'est la scène de la galère, et Cyrano lui dit, et alors, qu'est-ce qui se passait? Les gens riaient, voilà, ça marchait bien le truc. Mais la scène est reprise et on pourrait quand même dire améliorée. Quoi.
C'est aussi c'est le meilleur propre de Molière, la culture dans tous les domaines culturels, on ne copie ce qui vaut la peine d'être copié, et tout le monde s'influence.
L'important, de toute façon, moi je crois, au théâtre avant tout, que ce soit dans les écrits ou dans la manière dont les choses sont montées, c'est de les réinventer. On n'invente vraiment plus grand-chose. On ne fait que réinventer, remettre à l'ordre du jour. Et c'est ça qui est beau. Enfin, c'est ça qui est le plus important, en plus. Enfin, je veux dire.
Ouais. Et pas qu'au théâtre.
Ouais.
En tout cas, sur l'alexandrin, c'est un vrai plaisir de jouer ça, et c'est un vrai plaisir d'entendre les gens, au fur et à mesure de la pièce, entrer dans cette écriture et dans cette étrangeté, cette manière de penser. et donc, enfin, plutôt dans cette manière de parler et donc dans cette manière de penser, parce que ça nous oblige à penser différemment l'Alexandrin. Et donc les gens, quand je dis que les gens sortent plus intelligents, il y a vraiment de ça, c'est-à-dire on sort de là, on a été profondément dépaysé, parce qu'on on voit bien qu'on est dans des costumes de l'époque, on voit bien une mise en scène qui est moderne, on entend une langue, même si on ne le dit pas à la manière de Molière de l'époque, puisqu'ils avaient des accents plus prononcés, sans doute, enfin on n'a pas de disque, hein, mais on imagine. On voit bien que c'est comme ça, c'est un agencement qui est très complexe et qui nous permet d'entendre des choses. Et donc oui, ce qui compte c'est l'état de jeu après des acteurs et comment ils le transmettent. Voilà, c'est tout.
Et cette langue-là fonctionne avec des décors des contemporains, des costumes contemporains, il n'y a pas de problème.
Ah oui. À partir du moment où on la respecte, oui. Parce que pendant des années en France, hein, surtout la comédie française...
On réécrivait les textes.
Non, mais on jouait l'alexandrin comme si c'était pas écrit en alexandrin. Donc on ne respectait pas les pieds et on jouait ça comme si on était en train de dire de la prose. Mmh. Parce que l'idée, c'était de montrer que c'était... qu'il fallait être naturel. On pouvait pas être naturel dans l'alexandrin, c'est pas la question. Mmh. La question, c'est d'arriver à... Non, mais il faut, c'est d'être habile.
Je veux pas faire des parallèles faciles, etc. Mais enfin, les gens qui font du rap... Ils font de l'alexandrin.
Oui, bien
donc,
sûr.
Du slam. Il n'y a pas plus moderne que ça, le slam et tout ça.
Enfin, c'est l'art de la aujourd'hui, c'est, la, hein, c'est pas. De la musique avant toute chose.
Mais ouais.
Et pour cela, pour faire disons, un verre.
Ou du décasyllabe, ou de l'octosyllabe.
Oui, bien sûr. Cette manière-là, donc c'est hyper moderne en fait.
Mmh. La science du rythme.
Oui, tout à fait.
Musical.
Ah, je ne vois qu'ajouter qu'il est 14h59 et donc on va peut-être dépasser d'une minute, mais sinon non, je ne vois rien à dire. Si, je voulais indiquer que ça marche, mais vous l'avez dit tout à l'heure, je crois un peu Emmanuel Vérité. Cette pièce d'ailleurs n'en est pas à sa première, hein, elle a commencé à Dijon, le 2015, c'est ça je crois ou,
2014
à Dijon, mmh. Et hier le public a applaudi, a rappelé, le moment même où je pense, il me semble on pouvait penser que c'était terminé, non, le public relançait, les comédiens revenaient avec toujours cette énergie, moi je suis toujours épaté.
Donc grand succès.
Ils passent deux heures sur scène, les personnages, les comédiens, les acteurs, tout ça, et bien ils trouvent encore le moyen de réussir à courir pour courir dans les coulisses, et ensuite ils reviennent également sur scène, toujours en courant, avec un grand sourire et une grande énergie, mais ça doit être crevant quand même, deux heures, c'est quoi, c'est un
semi-marathon, c'est ça des footballeurs qui ont couru pendant une heure et demie, puis qui viennent de gagner le match, ils courent encore, c'est sûr.
Ils galopent encore, ils courir longtemps.
Non mais c'est vrai, c'est un vrai bonheur, enfin je veux dire, quand le public applaudit comme ça, c'est super excitant.
Donc c'était une bonne première pour vous hier, oui.
Oui,
en plus, j'ai trouvé le public très... Pas de tout, il y a eu un tout petit mobile peut-être, je crois, qui a dû sonner à un moment donné, il me semble, mais sinon, non, une écoute.
Oui, c'était du contemporain dans la pièce.
L'écoute était très belle. Ouais, mais j'espère que ça va continuer comme ça, j'espère qu'on sera... Voilà.
Et puis, une chose à laquelle tu es un peu sensible, Gérald, non, il n'y avait pas que des têtes chenues. Non, j'ai dit qu'il y avait des scolaires, mais pas que, il y avait vraiment tout type de personnes, il y avait des jeunes gens, des gens un peu moins jeunes, plus jeunes, pas très très jeunes,
public très mélangé. Alors, il est spécifié, à partir de 15 ans quand même, le spectacle.
Oui, bah là,
on n'a pas, on a pas dit que les scénographies et les lumières étaient Antoine Franchet, le son de Jean-Marc Bezou, les costumes de Violaine et Elle Chartier, l'assistant à la mise en scène Raphaël Patou, les maquillages et coiffures Marion Bidot, réalisation des costumes Amélie Loisy, les stagiaires costumes Charline Girard.
Interdit au moins de 15
les régies,
ans. J'ai pensé.
Tu fais la liste ? Régie générale Félix Jobard, régie lumière Laurie Salvi, régie générale et son Sam Babouillard, construction et régie plateau Florent Gauthier, qui joue aussi d'ailleurs. Et production déléguée, Théâtre Dijon-Bourgogne. Co-production, scène nationale du Sénart, la Filature, scène nationale de Mulhouse, avec le soutien de Diez et Rhône-Alpes.
Ça veut dire qu'il reste encore des dates encore.
Qui sera joué du 1er au 12 mars, mardi, mercredi, jeudi. En général, à 20h, le spectacle dure 2h. Ce soir, c'est le bord de scène où on peut rencontrer, après, à l'issue du spectacle, toute l'équipe des acteurs, etc. Il y a des bords de scène, dont mercredi, aujourd'hui, 2 mars, à l'issue de la représentation. Un portrait d'acteur avec Martine Schambacher ou Schambacher, vendredi 4 mars à 12h30, au Palais Saint-Jean. Je ne sais pas ce que c'est, ces portraits d'acteurs. Un stage théâtre, vous pourrez en parler. C'est annulé. Donc il n'y a rien. Un stage théâtre avec Benoît Lambert, le samedi 5 et dimanche 6 mars, qui est maintenu. Et enfin, qui peut intéresser nos auditeurs et les encourager à aller voir cette magnifique pièce, visiblement. Exposition, les étudiants de première année design d'espace de l'école Presqu'île Arts Appliqués présentent leur scénographie de Tartuffe dans les coursives du théâtre du 1er au 12 mars en entrée libre.
Bon, moi j'aurais
sachant que les tarifs en plus du théâtre de la Croix-Rousse ne sont jamais excessifs.
Tu dis que c'est moins de 15 ans, enfin du moins que c'est permis enfin, à partir de 15 ans.
On va avoir 10, 12 ans.
Ah non, mais moi je pensais, il y a une réplique, là, le jus de réglisse. Moi j'aurais volontiers vu un truc super graveleux, très obscène, quoi, carrément.
Parce écouter,
que, qu'est-ce que c'est que ce jus de réglisse que propose Tartuffe à Emir qui a sa toux.
Ah, oui, c'est Satalani, oui. C'est, bah, ah bah oui, mais c'est ça. Oui, mais
et en plus, le truc continue un peu. D'ailleurs, elle se met en position. Et oui, même ça commence, il me semble.
Ah, mais si vous écoutez bien les vers, vous allez voir, il y en a plein.
C'est grivois, hein.
Il y en a plein. Non, mais Molière, c'est un sacré rigolo.
Oui, c'était un rigolo.
Non, mais vraiment, il n'arrête pas, quoi.
Mais il a écrit des farces, c'est évident.
Bah oui.
Non, mais pour revenir à ça, oui, c'est vrai que Molière, il était capable de vous écrire les répliques de Cléante sont sophistiquées, sont extrêmement habiles pour expliquer plein de choses. C'est merveilleux c'est vraiment une langue merveilleuse. Et puis deux actes après, vous avez un truc mais grivois, bas de gamme, en dessous de la ceinture, et ça cohabite très bien. Et c'est là que c'est beau, c'est que c'est vraiment la bourgeoisie qui est capable de faire ça. Il n'y a pas quoi, à un moment donné, ils sont rattrapés par des sentiments, hein, et par des passions et des pulsions. Voilà. Donc ouais, ça marche très très bien. Parce qu'il faut quand même le faire pour mettre un grand bourgeois sous une table, comme ça, ils ont cache-toi sous la table, tu vas voir.
Je vais te ça ressemble, sauf qu'il peut la vie de Godard avec Isabelle Huppert. Ouais,
bah, non, mais
genre fois, rituel graveleux.
C'est souvent avec quand même assez subtil, quand même. Dénichon d'océan, bon. Ah non, mais il y en a plein. Hein. C'est truffé de trucs comme ça. C'est assez rigolo.
Oui, dénichon l'océan.
Dénichon d'océan.
Oui, d'océan, l'océan, c'est ce que c'est.
Et puis dénichon.
Oui, oui.
Gérald, je crois que tu t'apprêtais à proposer un.
L'esprit de famille de Ferré, ça aurait été marrant, une famille.
Oui, mais on va quand même rester.
Carrément toute la famille. Là.
Certes, auditeur, le blues des canuts n'a pas lieu aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de dépasser un peu. Je crois que le rendez-vous est pris avec Pascal la semaine prochaine, mercredi 15h, ça aura bien lieu. Nous terminons maintenant cette 91e, on approche de la centième, hein, Gérald.
Oui.
Et ce qu'on peut faire pour terminer, c'est seulement vous recommander, auditeurs, voilà. De monter de toutes les manières possibles à vélo, c'est peut-être un peu compliqué, en métro, le métro dépose, en C3, C13, non, il y en a
C13,
voilà. Tout un tas de moyens de transport qui peuvent amener au théâtre de la Croix-Rousse pour voir la pièce de Molière. Tartuffe ou l'imposteur, une pièce de 1669 qui, je pense qu'on l'aura compris, conserve une actualité assez
cuisante,
effrayante peut-être aussi,
effrayante,
non un peu
comme
ça.
Toujours.
Il y a de la musique sinon à venir ce vendredi soir. Il y aura un concert, les tableaux d'une exposition à l'auditorium, et puis il y a différentes choses, je crois. L'opéra, c'est encore dans deux semaines que va commencer Walter ou la dernière nuit, enfin Benjamin ou la dernière nuit. C'est la Biennale Musique en scène qui commence du 1er mars jusqu'au 27, un truc comme ça, je crois. Gérald.
Dans la culture musicale populaire, une soirée. Scène ouverte à l'agenda, je crois, demain soir.
Bon, ben c'est très bien, on a tout dit. Merci beaucoup,
merci
Emmanuel.
Merci
beaucoup, Étienne. Et on vous souhaite une bonne suite de représentation. Il en reste encore 9, c'est ça ?
Oui, si, oui.
Bon, ben
merci pour votre accueil.
Courage.
Semaine prochaine, théâtre ?
Semaine prochaine, théâtre. On reste avec le théâtre, oui. Claude Stavisky, directrice des Célestins, pour parler de Les affaires sont les affaires. Une pièce écrite encore il y a quelques années, mais peut-être que l'actualité est très économique, hein, Emmanuel. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bon. Bonne suite d'après-midi, restez à l'écoute des programmes, tout
et
un tas de trucs à venir. Voilà, Canu Info, et puis il pleut. Bon après-midi, à très bientôt, au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.